Europe 1.
Punchline. Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, notre invité exceptionnel ce soir, c'est Philippe Juvin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes candidat à l'élection présidentielle, en tout cas la primaire des Républicains qui aura lieu le 4 décembre prochain. Nous sommes aussi avec Louis Hausalter. Bonsoir Louis.
Bonsoir.
Journaliste
Laurence.
À Marianne.
Bonsoir, monsieur Juvin.
Et nous aurons l'occasion d'interroger Philippe Juvin sur son programme, sur évidemment ses différences avec les autres candidats au sein des Républicains. Et puis peut-être à commencer par le premier thème qui est celui de la sécurité. 8 Français sur 10 quasiment pensent que ce sera un enjeu central pour la présidentielle. Ça arrive tout de même en deuxième position après le pouvoir d'achat dans les thèmes de préoccupation des Français, mais c'est absolument présent dans la vie quotidienne des Français. On a eu un exemple samedi de l'agression d'un maire dans une petite ville du Calvados qui a tenté de s'interposer pour arrêter un rodéo urbain. Il en a été pour ses frais, il a pris plusieurs coups de matraque, il a été blessé. On va écouter son témoignage, vous êtes élu local à la Garenne-Colombes et on va voir comment vous réagissez face à ce niveau de violence. On écoute ce maire.
Je suis arrivé plus haut, leur dire d'arrêter, sinon les gendarmes étaient là dans un quart d'heure. Et puis je suis reparti, je suis descendu là pour venir chez moi. Et là, il y avait des jeunes d'arrêter ici, donc je descends de ma voiture. Je n'avais pas fait 2 mètres que je m'étais pris de coups de matraque, donc je n'ai pas eu le temps de discuter avec. Au niveau du visage, la lèvre, le nez, et je pense que j'avais la main comme ça et que ça a tapé la main en même temps. Donc les gendarmes ne peuvent rien faire, ils n'ont même plus le droit de les poursuivre, ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc c'est la libre... Les jeunes font ce qu'ils veulent, en fin de compte.
Philippe Juvin, quelles sont vos propositions en matière de sécurité? Comment aider alors ces élus locaux qui sont absolument seuls en première ligne, les policiers qui ne peuvent pas intervenir ou quasiment pas sur les rodéos urbains?
Écoutez, le grand drame de l'insécurité, c'est l'impunité. C'est-à-dire que les voyous qui sont toujours les mêmes. Quand on est maire, je suis maire depuis 20 ans, on connaît précisément qui met la pagaille, pour ne pas dire plus, dans nos communes. Mais on sait que quand on les attrape, quand on les amène devant le juge ou l'officier de police judiciaire, ils ont un rappel à la loi, ce n'est pas bien ce que vous avez fait.
C'est fini normalement les rappels
oui,
à la
oui,
loi.
Bah, pardon, mais ça va être réinventé sous une autre forme. Donc le sujet, c'est comment fait-on pour mettre fin à l'impunité, pour que la peur change de camp. Moi, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures. D'abord, effectivement, mettre fin au rappel à la loi et les remplacer par des peines qui sont effectivement dissuasives. Au tapon, au porte-monnaie. Premier rappel à la loi, 100 euros. Deuxième rappel à la loi, 200 euros. Dixième rappel à la loi, 1000 euros. Et à un moment, ça va marcher. De la même manière, je crois évidemment qu'il faut donner des moyens à la justice, ce qu'elle n'a pas aujourd'hui. Construire des places de prison, ce qu'on n'a pas fait, contrairement à ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Mais si notre programme n'est que cela, comme il faut 5 à 10 ans pour construire des places de prison, rien ne se fera dans 5 à 10 ans. Eh bien, soyons agiles. Par exemple, confisquons. Les voitures qui bouchent les rues à l'ordre avec un mariage qui fait du bruit, confisquons le scooter du rodéo. Bref, ayons une attitude qui renverse le rapport de force. Le sujet, c'est que le rapport de force n'est pas en faveur des honnêtes gens et de la loi.
Et c'est pour ça qu'ils mettent le thème de la sécurité aussi haut dans leurs préoccupations. Juste derrière le pouvoir d'achat, c'est très très proche en fait.
Non mais bien sûr, en fait... La sécurité, c'est la première des libertés. Quand vous vivez dans une commune, quelle qu'elle soit, vous ne voulez pas être importuné quand vous sortez. Or, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a par exemple pas une seule manifestation en France qui se passe sans aucun risque de trouble à l'ordre public. Donc, c'est le chaos généralisé parce qu'il y a cette impunité. C'est assez extraordinaire que quand il y a un fait divers, peut-être celui-ci, il y a toujours un député qui se croit plus intelligent que les autres, ou un ministre, ce qui est plus grave, et qui dit « Ah oui, mais nous allons donc rendre plus dur le code pénal. » Et on augmente le quantum des peines. En fait, le sujet n'est pas du tout là. Le quantum des peines, peu importe. Ce qu'on veut, c'est la certitude des peines. Et moi, je préfère des peines qui sont moins sévères, potentiellement, mais des peines qui sont certaines. Or, aujourd'hui, la certitude, c'est que les gens quasiment ne sont jamais condamnés.
Une question de Louis Hausalter.
Et quand Emmanuel Macron augmente le budget de la justice, comme ça n'a pas été fait depuis longtemps, quand il organise des états généraux de la justice, qu'il ouvre le dossier de l'efficacité de la chaîne pénale, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il apporte d'une certaine façon une réponse pour être le président du pays où je crois on doit vivre sa vie paisiblement? C'était le slogan qu'il avait trouvé. Est-ce qu'il n'apporte pas une réponse au problème que vous soulevez?
Il avait promis de construire 15 000 places de prison.
Ça, c'est pas fait, on est d'accord.
Ça ne se fera pas.
Ça ne sera pas fait sous ce quinquennat.
Il a augmenté le budget de la justice pour l'année prochaine. Ça tombe bien, il ne sera plus président. Donc, ce n'est pas lui qui paiera. Ce sera des chèques en bois, vous savez.
Vous savez déjà qui sera président ?
Il ne sera pas président, en tout cas. Lui ne sera pas. En tout cas, rien n'est garanti pour qu'il le soit. Et donc, tout ça, c'est du paiement à crédit. Moi, je juge sur des faits. Or, on voit bien que ce qu'il n'a fait jusqu'ici, c'est qu'il a laissé faire. Au fond, c'est Emmanuel Macron, évidemment, qui est à la tête du pays, qui est en cause, en responsabilité. Mais on voit bien que ça vient de très loin, avec une sorte de laisser-aller général sur le mode, bah, écoutez, on verra, on verra. Non, on reprend la main, on fait effectuer les peines. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous êtes condamné à une peine d'intérêt général, un travaux d'intérêt général, eh bien, 20% des TIG ne sont pas effectués, 80% des TIG sont effectués plus de 400 jours après la commission des peines, ce qui signifie que, par exemple, pour un mineur, enfin, pour un jeune homme de 18 ans, il ne le fera qu'à l'âge de 20 ans. Soyons clairs, il faut qu'il y ait à la fois une punition rapide, proportionnée. Il faut aussi qu'on ait une attitude très claire vis-à-vis des étrangers en situation régulière ou irrégulière qui sont condamnés. Un étranger en situation régulière ou irrégulière qui est condamné retourne dans son pays d'origine, effectuer la peine.
Voilà,
pas
après avoir effectué sa peine.
Mais non, avant, bien avant, entendu. Mais non, mais la prison est beaucoup plus confortable au Maroc qu'en Algérie. Vous savez, l'air y est plus pur.
Oui, mais donc c'est beaucoup mieux. Les victimes veulent être assurées que l'agresseur a fait sa peine et qu'elle l'ait bien fait. En France, on ne sait pas ce qu'il advient des agresseurs une fois qu'ils ont été expulsés.
Eh bien, écoutez, moi, je préfère qu'ils soient expulsés. Vous verrez, d'accord, ça aura un effet, comment dirais-je, de prévention beaucoup plus fort.
Dissuasif.
Mais bien entendu, il n'y a pas de raison que la France garde sur son territoire, paye avec l'argent de ses impôts, des gens qui mettent le chaos chez elle.
On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Philippe Juvin, dans ce grand oral de Punchline. On reviendra sur vos propositions concernant l'immigration, vous venez d'en dévoiler une partie, et puis on parlera aussi de sécurité routière. Faut-il supprimer le permis à points ? À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Avec notre invité ce soir, Philippe Juvin, dans le grand oral de Punchline, on est avec lui à Haushalter de Marianne. En matière d'immigration, quelle est la différence de ce que vous proposez par rapport à ce que propose Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ? Est-ce que vous avez une version plus dure de ce qu'il propose, moins dure, plus humaniste ? Est-ce qu'il faut faire attention, encore une fois, à des quotas ? Vous voulez un référendum, un moratoire ? Qu'est-ce que vous proposez ?
Non, mais d'abord, l'immigration n'est pas un droit. L'immigration, tout État a le droit de réguler son immigration. Et c'est ce qui se passera. Donc on fixera des quotas.
Pour l'immigration légale.
Pour l'immigration légale, bien entendu. Deuxièmement, le vrai problème de l'immigration, on le sait aujourd'hui, c'est le droit d'asile qui est dévoyé. Quand vous mettez le pied sur le territoire national, que vous demandez le droit d'asile, en fait, que vous l'ayez ou pas, vous savez que vous ne repartirez pas. Donc il faut en tirer les conséquences avec une première leçon. Et la première de ces leçons, c'est de faire en sorte que la réponse, la question posée par le droit d'asile, doit avoir lieu rapidement. Pourquoi ? Parce que si vous mettez 6 mois ou 1 an pour donner une réponse au droit d'asile, que se passe-t-il ? Les gens ont commencé à faire leur vie et ne repartent pas. Donc, nous devons faire en sorte que le droit d'asile ait été demandé avant l'arrivée sur le territoire national, les fameux hotspots. Nous avons un riche tissu consulaire partout dans le monde, au moins qui serve à ça, qu'on puisse faire les demandes dans ces tissus consulaires, ainsi que les tissus consulaires de l'Union, et interdire, évidemment, de rester sur le territoire une fois qu'on a été débouté.
Mais souvent, il y a des recours. Hein. C'est le cas de ce Bangladais qui a été arrêté la semaine dernière en brandissant 2 couteaux, qui était débouté du droit d'asile, en appel, donc toujours sur le territoire français.
Et donc, je trouve évidemment tout à fait anormal que le recours soit suspensif quand, en plus, vous faites preuve d'agressivité avec ces couteaux.
Il a été relaxé, d'ailleurs, de menace de mort.
Enfin, honnêtement, on est devenu fou. Il suffit désormais que quelqu'un veuille rester sur le territoire national, et quelle que soit la volonté du pays, en l'occurrence la France, c'est toujours l'immigré qui a raison. Ce n'est pas possible, la France doit choisir qui reste sur son territoire.
Donc moi j'expulserai,
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont été emprisonnés pour des délits, ou des crimes bien entendu, au début de leur peine, pour qu'ils purgent leur peine dans leur pays d'origine, au moins les choses seront claires. Deuxièmement, tous les déboutés du droit d'asile repartent. L'aide médicale d'État doit être vue. On voit très bien, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a montré que probablement 25% des demandes d'AME au minimum sont des demandes qui sont en réalité fictives, qui ont été faites alors même que les individus n'étaient pas sur le territoire national. 25%. On est sur des sommes absolument folles. Et enfin, il y a une pompe aspirante, qui est la pompe aspirante sociale, qui fait qu'en fait, on a toujours intérêt à venir en France, parce qu'en fait, il y a toujours un avantage financier. Ça, il faut mettre fin à la pompe aspirante. Je souhaite, et c'est compatible avec le droit de l'Union, il faut bien le dire, l'Allemagne l'a observé il y a maintenant 6 ou 7 ans à travers une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, réserver aux citoyens de l'Union européenne des allocations familiales ou l'aide au logement, par exemple.
Conditionner un temps sur le 5 ans passés sur le sol français ?
Éventuellement, ça peut se discuter, mais le principe, c'est que c'est réservé aux citoyens de l'Union européenne.
Louis Hausselter.
Vous parlez de quotas, vous n'êtes pas le seul à droite à parler de quotas, et ça fait longtemps que la droite nous parle des quotas d'immigration. Mais quand quelqu'un qui est expulsé fait un recours devant la justice, si la justice lui donne raison, il restera en France, quel que soit ce que vous avez inscrit dans la loi, quel que soit le quota, parce que le juge ne fait qu'appliquer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'impose directement en droit français. Et d'ailleurs, en ça, le juge ne fait que faire son travail. Donc, inscrire un quota dans la loi ne sert quasiment à rien en la matière. Comment est-ce que vous faites pour surmonter ça ?
Il y a deux choses, je crois. Premièrement, quand on est en situation irrégulière et qu'on est reconnu comme étant en situation régulière, mais qu'il y a effectivement un recours... On peut rester sur le territoire, mais d'une manière fermée. C'est-à-dire qu'il faut des centres fermés pour que les gens n'aillent pas se balader. Si vous avez des centres ouverts, en fait, vous perdez de vue les gens et on voit très bien que c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Donc, des centres fermés. Deuxième point, la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, pose problème sur certains articles, en particulier l'article 8 de la CEDH qui parle d'immigration, de regroupement familial.
La vie privée.
Exactement. Mais quand vous lisez l'article 8, il ne pose pas problème parce qu'il donne priorité à la loi. Il dit « selon les modalités fixées par la loi ». Or, ce qui pose problème, c'est la jurisprudence qui en a été faite, l'interprétation.
C'est l'interprétation qu'en font
exactement.
Les juges. Et comment vous changez ça ?
Eh bien, dans ces cas-là, il faut demander... Il y a d'autres pays qui sont dans cet état d'esprit. Plusieurs pays se plaignent de cette interprétation jusqu'au boutiste des juges de la CEDH. Eh bien, il faut décider que nous sortons de la CEDH tant qu'au moins l'article 8 n'a pas été réécrit et réaffirmé dans sa pureté
dénoncer
initiale.
La convention.
Bien sûr. Et je précise pour ceux qui nous écoutent que quand on parle de CEDH, Cour européenne des droits de l'homme, on ne parle pas d'Union européenne. La CEDH n'est pas une institution.
Vous avez raison, mais elle est reconnue dans les traités européens. Il y a
bien
un
entendu.
Texte qui reconnaît la CEDH dans les traités européens. Donc ce n'est pas la même instance, mais les deux sont liés quand même.
Je veux dire par là que si vous sortez de la CEDH, ce que je souhaite tant que l'article 8 n'est pas réécrit et réaffirmé, vous ne sortez pas de l'Union européenne. C'est un point extrêmement important parce que parfois les esprits confondent les choses.
Même chose pour la Cour de justice européenne ?
Non. Alors là, pour le coup, je pense que la Cour de justice de l'Union européenne, enfin je pense, c'est une institution de l'Union européenne. Mmh. Et je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux avec la Cour de justice de l'Union européenne. Moi, j'ai été 10 ans député européen. Je sais ce que je dois à l'Europe et ce que la France doit à l'Europe. Je sais aussi ce qu'il faut changer. Mais je sais aussi que l'Europe, l'Union européenne, est une construction juridique. Que c'est parce que nous acceptons d'avoir un droit commun que nous sommes arrivés à créer l'Union européenne. En particulier, ce qu'on appelle le marché unique. Quand je suis fabricant de lunettes en France, ces paires de lunettes, au lieu de les vendre à 67 millions de Français, je peux les vendre à 450 millions d'Européens. Pourquoi ? Parce que nous avons l'Union européenne, le marché unique et l'homogénéisation du droit. Donc, mettre en cause l'homogénéisation du droit me paraît être irresponsable. Et d'ailleurs, comme vous le savez, si vous mettez en cause le droit de l'Union européenne en France, eh bien pourquoi les Polonais, les Hongrois, les Allemands, chacun pourrait dire dans le droit de l'Union, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça.
Mais c'est ce que font parfois les Allemands.
C'est la fin de l'Union européenne. Non, pardon.
Notamment contre la Banque centrale européenne. Si, bien sûr.
Ce que font les Allemands, c'est un peu différent. Ce que font les Allemands, c'est qu'ils pèsent dans le processus de décision européenne.
Aussi, bien sûr.
En amont, ce que nous ne faisons pas. Le vrai sujet de l'Union européenne, pardon, c'est que la France ne pèse plus dans les institutions européennes. J'ai été député européen, je vous le répète, mais je peux vous dire que j'ai vu les Allemands agir, eux tiennent le machin. Et quand vous avez un député, un sénateur ou un ministre français qui viennent se plaindre d'une loi européenne, eh bien en fait, il est hypocrite. Parce que toutes les lois européennes, vous m'entendez, depuis 1958, toutes ont été adoptées, toujours, par le gouvernement français en exercice.
Est-ce que vous avez compris la volte-face de Michel Barnier, d'ailleurs, sur les institutions européennes ?
J'avoue que je n'ai pas suivi totalement cette affaire. Moi, je pense une chose très simple, comme je vous le dis, c'est qu'on ne joue pas avec le droit de l'Union. Le droit de l'Union européenne, c'est quelque chose de très fragile, qui a des désavantages pour notre pays, mais qui a l'avantage surtout, ponctuellement, mais qui a l'avantage surtout de créer une norme commune. Le vrai sujet, c'est ce que je vous disais, c'est l'influence française, mais le deuxième vrai sujet, c'est que la France rajoute des normes à la norme
elle-même,
européenne,
voilà.
D'une manière absolument
maladie
idiote.
Française.
Déjà, ne faisons pas cela.
Allez, on fait une pause, une poignée de secondes. On vous retrouve, Philippe Juvin. Faut-il supprimer le permis à points ? Je vous pose la question dans un instant. À tout de suite.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et ce soir, c'est Philippe Juvin qui passe le grand oral de Punchline. On est avec Louis Hausselter de Marianne pour l'interroger. Faut-il supprimer, ou en tout cas revoir le permis à points, une proposition qui a fait débat ce week-end. On va écouter quelques réactions de Français. Je vous passe la parole dans un instant.
Ça nous arrange, hein. Oui, ça nous arrange, mais aussi il faut faire attention. Après, tout le monde va conduire comme il veut, mais il y a des conséquences après. Donc.
On prend des points pour un oui, pour un non. Pour ceux qui roulent beaucoup, c'est insupportable. Il suffit de faire un tout petit écart au-dessus d'un kilomètre heure et on prend un point, et celui qui roule beaucoup, c'est impossible.
Bon, je pense que ça limite quand même quelque chose, le système de points, et je pense que s'il n'y avait pas ça, ce serait compliqué à mon avis.
Alors, Philippe Juvin, on supprime ce permis à points ou pas ?
Tout d'abord, quand on entre en campagne électorale, on s'aperçoit que tout le monde a l'idée géniale. Demain, il y en a un qui va dire « je supprime le permis de conduire aussi », vous voyez.
Non,
mais je plaisante un peu, quoique. Donc, faisons attention, il ne reste pas moins. Ce que je crois, c'est que le permis à points est devenu une pompe à fric.
Ok, et moi, pour le dire clairement.
Mais j'ai un exemple. Je trouve que moi, je suis né à Orléans, donc quand je vais à Orléans, sur l'autoroute, il y a une voiture, parce que je n'y vais pas en train, pardon, j'y vais en voiture, excusez-moi. Et en bas d'une côte, il y a un radar, donc tout le monde freine pour ne pas dépasser le radar. Et puis en bas de la côte, on remet la seconde, puis la troisième, parce qu'il faut remonter la côte et on pollue la planète. Donc il y a plus que le permis à points, je pense que la question qui se pose, c'est l'intelligence avec laquelle sont posés les radars aux endroits les plus stratégiques. C'est la question de la limitation de vitesse. On se souvient de cette décision formidable d'Édouard Philippe il y a maintenant 3 ans.
Mmh, qui donc, a mis le feu aux poudres et provoqué les gilets jaunes.
Et qui a diminué la limitation, enfin qui a augmenté la limitation de vitesse, diminué la vitesse autorisée sur les routes d'une manière totalement homogène. C'est ça que je conteste, moi. Qui a un permis à points, ça me semble logique. La question, c'est son utilisation. Or, son utilisation n'est pas, le but n'est pas la sécurité des Français, le but c'est de rapporter de l'argent, pompe à fric, pour l'État.
Alors il y a quand même plus de 700 000 personnes qui aujourd'hui roulent en France sans permis, qui donc sont amenées parfois à faire des refus d'obtempérer face aux forces de l'ordre pour ne pas se faire contrôler. Absolument. C'est un vrai problème de sécurité publique quand même.
Alors c'est une conséquence. Maintenant, il y avait des gens qui roulaient sans permis avant même qu'il y ait le permis à point. Donc ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, mais c'est vrai que tout ça accélère les choses. Encore une fois, la question c'est l'équité. Est-ce que l'État est là pour taper avec une grosse matraque, ou est-ce que l'État est là pour faciliter la vie des gens et d'une manière la plus intelligente possible? On a un peu l'impression que la fameuse phrase de Pompidou « arrêtez d'emmerder les Français » a été oubliée. Le sujet est là, je crois, qu'on ne cesse d'emmerder les Français dans tout. Sécurité routière, impôts, taxation, etc., etc. C'est ça qu'il faut arrêter. Arrêtons d'emmerder les Français.
Il y a un autre sujet qui crispe les automobilistes, ou qui devraient les crisper parce que tous n'en ont pas conscience, ce sont les zones à faible émission. Mais ça devrait aussi vous toucher en tant que médecin, parce que c'est censé réduire la pollution dans les métropoles. Donc, dans quelques mois, quelques années, dans la plupart des métropoles françaises, les plus vieilles voitures, et on le voit déjà beaucoup à Paris, ne pourront pas rentrer. Et plus le temps passera, moins les voitures anciennes pourront entrer et circuler dans certaines rues. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure ou qu'il faut en stopper ou en freiner l'application ?
Alors, la zone à faible émission, moi j'ai eu à l'appliquer en tant que maire, puisque je suis maire d'une
commune. Vous êtes concerné par...
d'une métropole, la métropole du Grand Paris, vise à sortir les vieilles voitures polluantes. Le problème, c'est que les vieilles voitures polluantes appartiennent souvent à des gens qui ont un pouvoir d'achat qui est faible. Et donc quand on dit aux gens qui ont peu d'argent, écoutez, j'ai une bonne nouvelle, non seulement le diesel augmente, mais en plus, vous allez devoir changer votre voiture. Et en plus, votre vieille voiture, vous ne pouvez pas la vendre. Vous ne pouvez pas la vendre. Donc je pense que là aussi, on est devenu absolument fou. Je pense que la zone à faible émission, nous y serions arrivés naturellement avec la disparition des voitures et le remplacement par des voitures modernes. C'est ça, en fait, ce à quoi nous aurions dû arriver. Maintenant, l'État a beaucoup de culot de faire ainsi la leçon aux automobilistes pendant que des années, il a poussé les automobilistes à acheter du diesel. Vous voyez, on est dans un État qui se fiche un peu du monde.
Alors, celui qui a émis l'idée de ce permis à points supprimé, c'est Éric Zemmour, pour ne pas le citer. C'est quelque chose qui est un phénomène qui turbule du côté de la droite. Est-ce que c'est une candidature qui vous fait peur ? Est-ce que s'il se présentait demain à la primaire, vous n'êtes pas sûr qu'il ne la remporterait pas, Philippe ?
Non, mais d'abord, moi, rien ne me fait peur. Le débat public, c'est intéressant d'avoir des visions différentes. Maintenant, sur ce qu'il dit sur le fond, c'est ça le sujet. Quand il dit que l'école, ça ne va pas, il a raison. Quand il dit que l'immigration, ça ne va pas, il a raison. Quand il dit que la sécurité, ça ne va pas, il a raison. Moi, je fais les mêmes analyses que lui, la même analyse radicale. La vraie question derrière, c'est quelles sont les propositions qu'il fait sur l'école, par exemple, sur l'immigration, sur la sécurité. La vraie question est là. Et puis, il y a un sujet peut-être plus profond avec Éric Zemmour, quelle que soit l'intelligence de l'homme, je ne conteste absolument pas, c'est la question de la blessure. Mmh. Voyez-vous, je crois que le pays est profondément fractionné, et c'est, je pense, un des grands points négatifs d'Emmanuel Macron. Il a fractionné le pays, là où il fallait le rassembler. Et voyez-vous, je ne peux...
Fracturer ou fractionner ? Les deux.
En tout cas, nous ne faisons plus suffisamment nation. Et voyez-vous, je me dis que quand on laisse entendre à quelqu'un, parce qu'il s'appelle Karim ou Rafik, que quand il a beau travailler, vouloir que son entreprise, son commerce prospère, il veut que ses enfants fassent des études, aient un avenir, eh bien, on puisse lui... Et il aime la France autant que je l'aime, autant que vous l'aimez, autant que nous l'aimons tous. Eh bien, l'idée de lui dire, au fond, quels que soient les efforts que vous ferez, parce que vous appelez Rafik, je ne suis pas certain que vous serez toujours français. Alors, c'est plus complexe que ça, je l'entends quand Éric Zemmour le dit, mais il y a un peu de ça, et ça, cette blessure, elle me pose un vrai problème de fond.
Oui, à Wassalter.
Mais là, vous êtes en train, chez les Républicains, d'organiser un vote pour désigner votre candidat. Donc, pendant jusqu'au 4 décembre, vous allez faire votre cuisine interne, parce que seuls les adhérents pourront voter. Pendant ce temps-là, Éric Zemmour participe au débat national. Est-ce que vous ne risquez pas de disparaître, mais de vous effacer encore plus du débat national, que Zemmour, lui, investit de plus en plus parce qu'il ne s'est pas soumis à une formalité telle qu'un vote interne.
Alors d'abord, ce n'est pas une cuisine, vous êtes sympathique, mais ça s'appelle un processus de vote où on échange entre nous. Ce n'est
pas une primaire ouverte non plus.
Ce n'est pas une primaire ouverte, c'est une primaire fermée.
4 millions de participants à la primaire de 2016.
C'est une primaire fermée, ce n'est pas une cuisine.
Vous le regrettez ?
Oui, moi je le regrette, je voulais une primaire ouverte parce qu'évidemment, plus on varie dans les gens qui viennent vous juger, mieux c'est. Mais c'est ainsi. Donc on ne va pas y revenir sans arrêt. Maintenant, si vous voulez me faire dire qu'Éric Zemmour est aussi le fruit d'une certaine vacuité du débat politique général, pas seulement nous, oui, je peux le dire. Effectivement, Éric Zemmour prospère sur l'idée que les hommes et les femmes politiques proposent toujours la même chose, toujours les mêmes vieilles recettes et toujours les mêmes vieux parcours depuis toujours. Et on parlait d'un homme politique célèbre tout à l'heure hors plateau qu'on voyait à la première page d'un grand journal, je crois, qui paraît le dimanche. Et on se disait, c'est curieux, on le voyait déjà il y a 10, 20, 30 ans.
On parle de François Bayrou pour nos auditeurs.
Les gens n'en peuvent plus. Et c'est aussi pour ça que je me présente. Je me présente parce que je pense que la politique française a besoin d'hommes et de femmes qui ont des parcours qui ne sont pas les parcours habituels des hommes politiques. Moi, je suis maire depuis 20 ans, j'ai été député européen, je suis médecin, je dirige des services compliqués, j'ai résolu des crises, j'ai été militaire en Afghanistan. Eh bien, toutes ces expériences humaines me permettent de mettre sur la table des solutions que j'ai pu expérimenter, différentes de celles de ceux proposés par ceux qui étaient ministres peut-être il y a 15 ans. Donc je pense que oui, Éric Zemmour est un symptôme d'une volonté de changement.
De renouveau, c'est ça ? Il y a un besoin de renouveau dans la classe politique française.
De changement, des parcours et des solutions, sans aucun doute.
Allez, on fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera de cette fameuse primaire qui a démarré chez les Républicains. Qu'est-ce qui vous différencie les uns des autres ? Et puis, une question sur les parrainages. Tiens, où vous en êtes ? À tout de suite dans Punchline.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve avec Philippe Juvin dans le grand oral de Punchline. Vous êtes candidat donc à cette primaire de la droite. Est-ce que vous avez les parrainages nécessaires ? On parle de 250 parrainages. Vous m'aviez dit il y a quelques jours que vous étiez inquiet, que vous aviez le sentiment qu'on avait verrouillé les élus locaux pour ne pas qu'ils vous donnent vos parrainages. Où est-ce que vous en êtes, Philippe Juvin ?
Alors, dans un marathon, le dernier kilomètre est toujours le plus difficile. Donc je suis dans la dernière ligne droite. Il faut déposer les parrainages avant le 2, c'est-à-dire dans 8 jours. Je pense que je les aurai. Mais c'est un travail de tous les instants. Vous savez, quand on a un parcours, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'est pas le parcours des autres candidats, qui sont des candidats installés dans une vie politique ancienne.
Avec des fédérations, alors
avec peut-être beaucoup de parlementaires qui les aident, parce que ce sont des gens qui ont évidemment des talents et une bonne connaissance du tissu politique, c'est forcément plus difficile. Mais je pense que je les aurai, parce que c'est aussi l'intérêt, je pense, de notre famille politique, d'avoir des portraits, des parcours, des solutions différentes.
Donc vous leur dites attention, ne verrouillez pas les parrainages qu'ils
pourraient donner. Non, je vous dis à vous, Laurence Ferrari, que j'espère bien les avoir le 2.
D'accord, mais l'espoir fait vivre. Hein.
Non, c'est vrai. Vous savez, de toute façon, vous me dites, êtes-vous inquiet ? En général, j'essaye de ne pas l'être. Mm-hmm. Mais je ne suis jamais allé, j'en ai passé quelques-uns d'examens et de concours dans ma vie, en étant totalement décontracté. Donc je vous le dirai le 2.
Louis Absalter.
Seuls pourront voter pour désigner le candidat LR les adhérents de LR. À votre avis, combien est-ce qu'il y aura de votants à cette consultation, sachant qu'on peut encore adhérer à LR jusqu'à la mi-novembre, c'est ça ?
Jusqu'au 15 novembre. Écoutez, ça monte pas mal. Je crois qu'on a commencé à 88 000 adhérents au moment où on a lancé l'opération primaire fermée, primaire, enfin congrès, on va probablement arriver à 110, 120 000 adhérents. Oui.
Mais au fond, du coup, le vainqueur, c'est celui qui fait rentrer le plus de cartes. C'est ça le concours des candidats de la droite ?
Alors ça, c'est peut-être une vision un tout petit peu ancienne, pardon, de la politique. Je crois que les gens sont beaucoup plus libres que ça.
Mais qui est cher à Christian Jacob, le président du parti, qui va se retrouver à la tête d'un parti très nombreux par cette opération.
Ce qui est certain, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des fédérations. Nous sommes organisés par département dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, j'en suis le président, mais il y a de grosses fédérations. Les Hauts-de-Seine en sont, mais il y en a d'autres qui comptent. Et c'est vrai qu'on va regarder ces grosses fédérations. Maintenant, toute voix comptera. Et je dis à ceux et à celles qui veulent participer à la définition de qui sera le champion de la droite et du centre, de prendre leur carte aux Républicains avant le 15 novembre.
Alors, il y aura plusieurs débats qui seront organisés, 4 débats, le plus important sur CNews et Europe 1, le 21 novembre. Évidemment, un petit clin d'œil à nos auditeurs. Est-ce que vous attendez à des débats âpres ? Est-ce que vous allez échanger des arguments de fond ? Ou est-ce que vous allez vous épargner ? Est-ce qu'il y aura une espèce de modus vivendi avant qui fera que vous allez vous épargner les uns les autres ?
En fait, nous avons une double obligation à droite. Nous avons l'obligation de montrer nos différences, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Un débat où tout le monde est d'accord, ça ne s'appelle pas un débat. Donc nous montrons nos différences, et nous en avons, sur différents sujets. Vous m'avez parlé de l'Union européenne tout à l'heure, je vous ai dit en quoi je croyais qu'il fallait faire très attention à ne pas fragiliser l'édifice européen juridique. Et puis, en même temps, nous devons montrer que nous serons unis. D'une certaine manière, le deuxième tour aura lieu le 4 décembre. D'une certaine manière, la date la plus importante est peut-être celle du 5 décembre, le lendemain du second tour. Puisqu'il nous faudra tirer les leçons de nos échecs d'il y a 5 ans, quand le gagnant de la primaire, en l'occurrence François Fillon, n'avait pas fait tout ce qu'il fallait pour attirer à lui les différents perdants. Je crois que le sujet sera clé le 5. Nous devons nous réunir. En tout cas, moi, je serai toujours celui qui guidera la droite vers l'union. Si nous sommes désunis, nous perdrons. Nous pouvons gagner cette élection présidentielle parce que nous avons des solutions à mettre sur la table, mais à condition que nous soyons unis.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez regardé les débats de la primaire écologiste.
Oui.
Mais les candidats ont été assez retenus. Ils ne se sont pas tapés entre eux avec une violence extrême. Est-ce que ce n'est pas une inspiration pour vous, finalement ?
Mais d'abord, moi, je crois que le débat politique peut être âpre sur l'argument et sur le fond, en étant évidemment bien élevé et non violent. Enfin,
Donc c'est une inspiration, ça peut être une inspiration, pas sur le fond, évidemment.
Alors, sur le fond, non, parce que vraiment, parfois, il disait des trucs. Bref. Mais c'est vrai, vous avez raison. J'ai apprécié ces débats parce que c'était des débats. Et tout le monde s'est un peu moqué d'eux au début du mois de septembre en disant « Ah tiens, on apprend qu'il y a une primaire des écologistes, etc. » Mais en fait, les débats avaient une certaine tenue. Et moi, j'ai été intéressé, pour être très franc, par ces débats. Donc, je crois absolument nécessaire que nous débattions entre nous, que les Français voient qu'il y a des possibilités différentes de solutions, que finalement, nous ne sommes pas enfermés dans un candidat qui est donné le gagnant. Quatre débats, ce sont... Il y a de quoi apporter de la matière grise. Ce qui manque, c'est du fond. Moi, je suis là pour donner du fond à la campagne de la droite.
Il manque pas aussi, c'est pas pour vous faire injure, mais il y a 5 ans, il y avait quand même un casting avec un ancien président de la République, 2 anciens premiers ministres. On va pas du tout retrouver casting cette année. Est-ce que la droite n'en souffre pas ?
Vous avez raison, évidemment. Je suis tout à fait humble dans ce que nous sommes et dans ce que je suis en particulier. Mais pardon, ça ne nous a pas beaucoup réussi. Donc, je crois que les Français, encore une fois, sont attentifs à la nouveauté et cherchent une alternative à une vie politique qui se répète depuis 20 ans, où on a, toujours les mêmes...
Vous savez, Bertrand, Valérie Pécresse et Michel Barnier, ils les connaissent, les Français. Ils n'auront pas l'argument de la nouveauté pour eux.
Eh bien, peut-être seront-ils intéressés par voir des candidats.
Alors, sur la question de la santé, évidemment, vous avez beaucoup de propositions légitimes à faire, étant donné que vous êtes chef du service des urgences de Pompidou. Vous voulez mettre fin aux déserts médicaux. Et vous avez une proposition qui est très intéressante, je voudrais que vous la développiez, c'est que tous les étudiants qui sortent de médecine consacre un an ou deux à aller dans les déserts médicaux. Comment vous allez les forcer à faire ça ?
Absolument. En fait, il y a 3 ans, vous ne le savez probablement pas, parce que on n'a pas fait une publicité, tous les médecins qui finissent leurs études de médecine à l'issue de leur internat spécialiste doivent faire un an supplémentaire qu'on appelle de docteur junior pour parfaire leur formation dans les hôpitaux. Eh bien, moi, ma proposition est très simple. Je demanderai à tous les étudiants en médecine qui finissent leurs études, donc qui sont médecins généralistes, parce que cette affaire de docteur junior ne s'applique pas actuellement aux généralistes, j'appliquerai un an de docteur junior à tous les généralistes, et tous les généralistes de France et de Navarre devront un an qu'ils feront dans les zones qui sont dépeuplées en médecins. Et je vais vous donner un ordre de grandeur. Il y a 1800 maisons médicales en France. Il y a 3600 généralistes qui sortent chaque année de la faculté. Et bien, ça fait une moyenne de 2 généralistes qui seront affectés par maison médicale tous les ans en plus. Au bout d'un an, Ils finiront leur année de docteur junior, comme leurs confrères spécialisés dans les hôpitaux, et ils iront s'installer où ils veulent. Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un an, un certain nombre auront fait leur vie, seront tombés amoureux à l'endroit où ils travaillent, auront considéré que leur travail est intéressant et resteront dans la dite maison médicale. Un an plus tard, vous aurez en plus deux nouveaux qui arriveront, etc. Moi, je mettrai
fin. Comment vous attribuez les zones géographiques?
Eh bien, je commencerai.
C'est arbitraire?
Non, pas du tout. Je commencerai la première année à prendre toutes les maisons médicales qui sont recensées par les agences régionales de santé, 1800, et à ces 1800, j'ajouterai deux médecins généralistes en formation, quel que soit l'endroit de France et de Navarre. Parallèlement, comme j'augmente considérablement le nombre de médecins en formation, vous aurez un peu plus tard, combien, plus de 3000. Ce que je crois, c'est qu'il faut probablement doubler le nombre de médecins en formation. Pourquoi? D'abord parce que dans 20 ans, il y a des spécialités qui n'existent pas aujourd'hui, qui existeront demain, dont on n'a même pas idée. Deuxièmement, la population augmente. Troisièmement, la population vieillit. Quatrièmement, la population est plus malade. Et cinquièmement, les jeunes médecins veulent moins travailler que les vieux médecins. Eh bien, tout ça, je vous le dis, si nous ne doublons pas le nombre de médecins, en fait, on n'y arrivera pas. Et ça serait quand même assez fou que nous sortions de cette épidémie dingue du Covid sans avoir remis sur la table une grande réforme du système de santé.
Louis Aoussel.
Justement, le Covid, vous avez beaucoup critiqué la gestion de la crise sanitaire. Sauf que là, Emmanuel Macron a une popularité qui n'est pas du tout honteuse pour un président de la République à ce moment de son mandat. Et son incitation, pour ne pas dire sa contrainte, à aller se faire vacciner cet été a plutôt fonctionné. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, les Français se disent « il ne s'en est pas trop mal sorti, ce président, compte tenu de ce qui lui est tombé dessus ?»
D'abord, vous savez, moi j'ai toujours été, je crois, raisonnable dans mes commentaires. Et quand le président de la République prenait des décisions qui me semblaient bonnes, je disais qu'elles étaient bonnes. En particulier, j'ai soutenu le pass sanitaire à l'époque du mois de juillet. Je crois simplement qu'il est faux de dire qu'on s'en est bien sorti, ce n'est pas vrai. Durant l'épidémie, nous avons manqué de tout, de tests, de masques. Et je racontais même chez vos confrères cette histoire terrible, même de housses mortuaires. Moi, je me souviens d'un soir où je suis allé chercher des housses mortuaires pour les apporter à une collègue dans une clinique qui en était dépourvue. Donc c'est vous dire qu'on a manqué de tout. Que le gouvernement veuille raconter une petite histoire en disant finalement on s'en est bien sorti, je le vois, effectivement, je ne suis pas dupe. Mais c'est faux. L'Allemagne, qui a plus d'habitants que nous, a moins de morts que nous. Alors, je veux qu'on m'explique pourquoi eux s'en sont mieux sortis. Nous, nous en sommes mal sortis. Et ce qu'on a fait de bien, je peux vous assurer, ce n'est pas grâce au gouvernement. C'est parce que les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les professionnels de santé ont pris sur eux.
Oui, mais l'impréparation dont vous parlez n'était peut-être pas due non plus uniquement au gouvernement. C'est peut-être aussi les gouvernements précédents qui avaient mal préparé la crise. D'ailleurs, des enquêtes l'ont montré.
Vous avez raison, bien entendu. Et je ne jetterai pas que la pierre au gouvernement actuel. Simplement, le gouvernement actuel, pardon, prenez l'exemple de la campagne de vaccination qui a été un fiasco pendant plusieurs mois. Souvenez-vous, les premiers mois du mois de janvier, c'était absolument fou. Il y a de l'impréparation qui date d'il y a longtemps, mais il y a eu une mauvaise gestion de la crise. D'ailleurs, moi j'ai deux propositions à faire. La première, c'est que si je suis élu président de la République, je mettrai fin immédiatement à l'état d'urgence sanitaire. On n'a pas besoin d'un état d'urgence qui est un mode juridique de contrainte pour lutter contre une épidémie. Les Allemands n'ont pas de contraintes de ce type. Ils ont un débat vigoureux et pourtant ils ont mieux lutté.
Vous êtes contre sa prolongation jusqu'à l'été prochain.
Absolument. Et deuxième point, je créerai un grand ministère, non pas de la santé, mais un ministère des santé. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, et ça doit être une leçon absolue de cette épidémie, c'est que la santé, ce n'est pas simplement l'hôpital, la médecine de ville ou les EHPAD, mais c'est aussi l'air que vous respirez, l'alimentation que vous mangez, la santé animale, le bien-être au travail. Tout cela, ça fait la santé. Et nous n'avons qu'une vision de santé qui est liée à l'hôpital, qui mérite d'être sauvée, parce que l'hôpital public est en très très mauvais état encore aujourd'hui. Mais cette vision de la santé, elle doit être globale. Je suis pour un ministère de la santé globale.
Est-ce que vous avez trouvé normal que le secret médical soit levé dans les établissements scolaires concernant les enfants et leur statut vaccinal?
Non, je crois que le secret médical, c'est un secret absolu qui a été institué dans l'intérêt des patients, article 2 du code de déontologie. Et je pense que rien ne doit passer au-dessus du secret médical. Mais je vois que le gouvernement a un petit problème avec les secrets professionnels, puisque même dans la loi sur la justice qui est en cours de discussion, le secret professionnel est mis à mal, secret professionnel détenu par l'avocat. Attention à ces gouvernements qui croient que l'État sait tout faire. Non, l'État ne sait pas tout faire, l'État n'a pas la solution à tout. Et une des manières de se protéger de l'État tout-puissant qui veut empiéter sur nos droits, c'est de préserver tous ces secrets qui sont des secrets professionnels.
Merci beaucoup, Philippe Juvin, d'être venu ce matin, pardon, ce soir plutôt.
Non, nous pouvons rester
jusqu'au matin. On peut rester jusqu'au matin, mais voilà. C'était, en tout cas, voilà, le grand oral de Punchline. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Louis Hostalter et aux miennes. Merci à vous. Bonne chance pour la compétition. Merci à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Dans un instant, vous retrouvez Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.